Utsita. 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 Attitude. Attitude. Utsitanitude. Utsitanitude.
Une émission de Jean Tufou, mise en onde par Lucas Dulac.
Cette semaine dans Occitanitude, nous vous proposons une rediffusion d'un rendez-vous exceptionnel avec Mathilde Mosnier et Pierre Roussel sur une œuvre intitulée « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono.
Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part, et qu'au surplus, elle ait laissé sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d'erreur, devant un caractère inoubliable.
Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance entre Sisteron et Mirabeau. Au nord, par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Die. À l'ouest, par les plaines du comtat venaissin et les contreforts du mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des Basses-Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ce désert, des landes nues et monotones à 1200-1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et, au bout de 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Les maisons agglomérées, quoiqu'en ruine, hein, comme un vieux nid de guêpe, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec grand soleil. Mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ses grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau. Et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir dans le lointain une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeais vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde et un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu. C'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide, et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, sa vaisselle lavée, son parquet balayé, son fusil graissé, sa soupe bouillée sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus et que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe et comme après je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu tout de suite que je passerais la nuit là. Le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche. Et au surplus, je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5, dispersés, loin les uns des autres, sur les flancs de ces hauteurs. Dans les taillis de chênes blancs, à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres, dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure dans le désir continu de s'échapper de cet endroit. Les hommes vont porter leur charbon à la ville avec leur camion, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du charbon que pour le banc à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et enfin pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent, également sans repos, irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Le berger, qui ne fumait pas, alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner, un après l'autre, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe, je me proposais pour l'aider. Il me dit que c'était son affaire, et en effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut là toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui, il le trouva tout naturel, ou plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intriguée et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et il le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands, soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et il monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout, c'était sa route. Et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur les hauteurs. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes, Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale ou peut-être était-ce la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui, en tout cas, ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses sanglants avec un soin extrême. Après le repas de midi, il se remit à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions, puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur ces 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il en avait perdu la moitié. Du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Visiblement, il avait plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement, avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Et il ajouta que, n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Menant moi-même à ce moment-là, malgré mon jeune âge, une vie solitaire, je savais toucher avec délicatesse aux âmes des solitaires. Cependant, je commis une faute. Mon jeune âge, précisément, me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que dans 30 ans, si Dieu lui prêtait vie, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait d'ailleurs déjà la reproduction des hêtres. Il en avait près de sa maison une pépinière issue des faines. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons par une barrière en grillage était de toute beauté. Il pensait également à des bouleaux, pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Et nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14, dans laquelle je fus engagée pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À dire le vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considérée comme un dada, une collection de timbres et oubliée.
Thank you.
Sortie de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation, minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. Oh, j'avais vu mourir trop de gens pendant ces 5 ans, pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier. D'autant que, lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il était même fort vert. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre, 100 de ruches. Il s'était débarrassé de ses moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Car, me dit-il, et je le constatais, il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans, et ils étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privée de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait, en 3 tronçons, 11 kilomètres de long et 3 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules répandues à perte de vue en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Et quant au dessein de la Providence elle-même, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient avec juste raison qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres, comme des adolescents, et très décidés. La réaction avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Oh, lui ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'était donné de voir. Ces ruisseaux avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains, dont il restait des traces, dans lesquelles les archéologues avaient fouillé et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau.
Le vent aussi dispersait certaines graines.
En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les sols, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine raison de vivre.
Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude.
Sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres et des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer dans les administrations et les villages une telle obstination dans la générosité la plus magnifique. À partir de 1920, je ne suis jamais restée plus d'un an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir, ni douter. Pourtant, Dieu sait si Dieu même y pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que, pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité. Que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Une année, il avait planté plus de 10 000 érables. Ils moururent tous. L'an d'après, il abandonna les érables pour reprendre les hêtres, qui réussirent encore mieux que les chênes. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale, si totale qu'il avait perdu l'habitude de parler vers la fin de sa vie. Ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, que l'on voyait une forêt pousser toute seule. À cette époque, il allait planter des hêtres à 12 kilomètres de sa maison. Pour s'éviter le trajet d'aller-retour, car il avait alors 75 ans.
Ah ouais, quand même !
Il envisageait de construire une cabane en pierre sur les lieux mêmes de ses plantations. Ce qu'il fit l'année d'après. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux et forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque chose et heureusement, on ne fit rien. Si ce n'est la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de ne pas être subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et la forêt exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même.
J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui étaient de la délégation. Je lui expliquais le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail, à 20 kilomètres de l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. Il sut rester silencieux. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en trois et quelques heures s'écoulèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913. Le désert. Le travail paisible et régulier. L'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avait donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir. Il n'insista pas. Pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta « Il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. C'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. Il fit nommer 3 gardes forestiers pour cette protection. Et il les terrorisa de telle façon qu'ils restèrent insensibles à tous les pots de vin que les bûcherons pouvaient proposer. L'œuvre ne courut de risques graves qu'avec la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chaînes de 1910. Mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise s'avéra très mauvaise du point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 km de là, poursuivant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39, comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert. Mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé le pays, il y a un car qui fait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Le car me débarqua à Vergon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, et vivaient de chasse au piège, à peu près dans l'état physique et moral des hommes de la préhistoire. Les orties dévoraient tout autour d'eux les maisons abandonnées. Leurs conditions étaient sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort. Situation qui ne prédispose guère aux vertus. Était changé, l'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple, chargée d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans la forêt. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les 4 ans, déjà gras. Symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Vergon portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir est nécessaire.
L'espoir était donc revenu.
On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés et reconstruit 5 maisons. Le hameau comptait désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Ces maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs. les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre, dont nous sortions à peine, n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais des petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées,
quelques prairies verdissaient.
Il n'a fallu que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie confortable et heureuse. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érable, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. On en a canalisé les eaux. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend cher s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien portants, des garçons et des filles qui savent rire et qui ont repris goût aux fêtes campagnardes. Si l'on compte l'ancienne population méconnaissable, depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouffier. Quand je réfléchis qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources morales et physiques, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que, malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais si je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme et d'acharnement dans la générosité pour obtenir ce résultat, je suis pris d'un immense respect pour ce vieux paysan sans culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Bannon.
Les lecteurs ont tellement adhéré à cette nouvelle de Jean Giono que nombre d'entre eux se sont rendus en Provence à la recherche d'Elzéar Bouffier. Si cette histoire fictive a ainsi été interprétée comme vraie, c'est qu'elle ne paraît ni invraisemblable, ni impossible, ni utopique, et que ces événements auraient pu se produire dans la réalité. Il y a d'ailleurs, de par le monde, des exemples, exceptionnels il est vrai, de personnes qui, sur un temps long, ont planté de leurs mains une forêt. Enfant, Jean Giono accompagnait son père dans les collines pour se promener et planter des glands. L'écrivain écrit d'ailleurs de sa nouvelle que le but était de faire aimer l'arbre, ou plus exactement, de faire aimer à planter les arbres.
Ce qui est depuis toujours une de ses idées les plus chères.
Cette nouvelle est un appel à la sauvegarde du patrimoine naturel, mais aussi à la solidarité humaine, et appuie sur le fait que l'homme et son milieu s'influencent mutuellement. Ces trois thématiques, les enjeux environnementaux, une humanité solidaire et l'impact réciproque de l'homme et son milieu se retrouve énoncé, théorisé, illustré et défendu presque un siècle auparavant par le géographe Élisée Reclus, qui écrivait au XIXe siècle.
Il faut prendre définitivement conscience de notre humanité solidaire, faisant corps avec la planète elle-même.
Il est possible que Jean Giono ait lu Élisée Reclus, qui appartenait au mouvement anarchiste, tout comme son père, que Jean Giono adorait et avec qui il allait planter des glands sur les collines. Élisée Reclus, un personnage étonnamment moderne et précurseur qui mérite bien la conférence de Jean Tufou qui va suivre.
Le prénom d'Élisée avait disparu dans les méandres de ma mémoire. Quand un ami, au hasard d'une conversation, m'a dit « Tu sais, tu devrais faire une petite recherche sur Élisée Reclus. » J'ai marqué une pause, n'osant avouer ma totale méconnaissance d'Élisée Reclus. Pourtant, il y avait bien un Élisée qui remontait à contre-courant les méandres de ma mémoire. Oui, c'est vrai, Élisée, j'avais le mien. Il était valet de ferme. Oui, je vous parle seulement du siècle précédent, le XXe siècle. Oui, valet de ferme. C'est ainsi que se présentait mon ami Élisée, qui aurait pu être mon père ou mon grand-père même. Il aimait son métier, il aimait la terre, il en prenait soin comme d'une femme chérie et bien aimée. Et oui, il y avait des gens de fort bonne mœurs dans les vallées viticoles de l'Orbe. Dans ma mémoire en lambeaux, je continuais malgré moi à ramasser mes souvenirs de vie et d'école. Je me rappelais le prophète Élisée, fils d'un cultivateur de la vallée du Jourdain, qui, avant d'enseigner à ses disciples, labourait la terre, les champs d'Élisée. Mais je dérape, la commande porte sur Élisée Reclus et non sur les origines du prénom Élisée ou sur mon Élisée valet de ferme. Après quelques livres et quelques recherches, je compris très vite qu'Élisée Reclus fut un grand géographe, un savant, un aventurier, grand voyageur et rêveur, un écrivain et un poète, anarchiste, militant politique, militant pour l'environnement, jetant les bases et les fondations de ce qui s'appellera plus tard l'écologie. Élisée Reclus est né en 1830 en Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, au sein d'une nombreuse et brillante fratrie et famille. Il va porter les chemins de la connaissance comme une bannière étoilée en devenant un géographe de renom. Il se passionne dès l'enfance pour cette discipline au parfum d'aventure et de merveilleux. Il ressent très tôt une forme de dialogue avec les paysages, les espaces grands ou délimités, connus ou à découvrir, une communion avec la nature comme une vocation qu'il relate à travers ce souvenir de jeunesse. Je me rappelle encore le jour où mon grand-père me dit que le Sahara est un désert où l'on peut marcher pendant des jours sans trouver autre chose que du sable. Depuis, il m'a donné cette première leçon de géographie. Je me vois essayant sans cesse en imagination de réaliser cet espace sans bornes. Par sa vision du monde et son caractère libertaire et hors cadre, il ne pouvait entrer dans aucun système institutionnalisé ou universitaire. À 18 ans, Élisée Reclus écrivait « Je ne veux avoir sur le front la marque d'aucun maître. Je veux grandir ma liberté, ma libre pensée. Ma volonté intacte, ne rendre aucun compte de ma conduite qu'à ma conscience. » Il va étudier la géographie sur le terrain, l'explorer avec amour et une curiosité insatiable, avec une acuité singulière et rare. Son écriture est à la fois poétique et porteuse d'un savoir éprouvé, conquis par son être tout entier, un savoir émancipateur, incitant au voyage, que ses lignes rendent avec justesse et simplicité. Voir la Terre, c'est pour moi l'étudier. La seule étude véritablement sérieuse que je fasse est celle de la géographie. Et je crois qu'il vaut mieux étudier la nature chez elle que de l'imaginer au fond de son cabinet. Pour connaître, il faut voir. J'avais lu des phrases sur la mer des tropiques, mais je ne l'ai pas comprise tant que je n'ai pas vu de mes yeux ces îles vertes et ces traînées d'algues et ces grandes nappes de lumière phosphorescente. Le conteur Horper qu'il était adolescent dans sa famille va servir le géographe qu'il est devenu en écrivant et en publiant moult carnets de voyage et guides touristiques que le public s'arrache. Cela l'amène à parcourir l'Europe, il gagne ainsi sa vie, par les droits d'auteur versés par son éditeur, la Maison Hachette, son succès fait qu'il sera souvent plagié, ce dont il ne s'offusquera pas, privilégiant à la propriété intellectuelle la diffusion de ses idées qu'on pourrait ici résumer par une fameuse phrase qu'on a tous entendue maintes fois, une phrase souvent répétée, galvaudée, voire détournée. Phrase dont Élisée Reclus est l'auteur et qui, en 1858, était comme un vent frais et nouveau. L'homme doit vivre en harmonie avec la nature. Son désir d'écriture est étayé par un parcours de vie semé d'aventures et d'épreuves. Son militantisme anarchiste lui vaudra l'exil de 1851 à 1857. Il ira d'abord à Londres, où il vivra difficilement de leçons, puis en Irlande, où il sera régisseur agricole et où il découvrira la grande pauvreté des campagnes. En 1853, il s'embarquera pour l'Amérique, où il sera tour à tour précepteur et agriculteur. Révolté par la société esclavagiste du Sud, il sera un militant abolitionniste en écrivant de nombreux articles contre l'esclavage et ses ravages. Il sera à Cuba et en Colombie avant de rentrer en France et d'entrer à la Société de géographie. Il sera de nouveau exilé pour sa participation à la Commune et résidera en Suisse de 1871 à 1879, où il continue à écrire sa vaste trilogie géographique commencée en 1867 avec son magistral ouvrage « La Terre, description des phénomènes de la vie du globe », qui lui assure une renommée internationale et qui sera complétée par la nouvelle géographie universelle en 1875, et « L'homme et la Terre » en 1905, qui est aussi l'année de sa mort, de son départ vers une nouvelle géographie à explorer. Sur ses péripéties de vie, il écrit avec un peu d'humour et beaucoup de poésie. Semblable au ruisseau qui s'enfuit, nous changeons à chaque instant. Notre vie se renouvelle de minute en minute, et si nous croyons rester les mêmes, ce n'est qu'une illusion de notre esprit. Semblable au ruisseau. Vous l'avez remarqué, vous aussi ? Quelle que soit l'allusion, la métaphore, la comparaison, ou que sais-je encore, bref, quelle que soit la forme littéraire employée, chez Élisée Reclus, elle renvoie toujours à la nature et il le dit lui-même d'ailleurs. Ce que j'ai appris, je le dois à la collaboration de mon berger et aussi à la collaboration de l'insecte rampant à celle du papillon et de l'oiseau chanteur. Nul doute qu'il se serait énormément mutuellement appris avec Elzéar Bouffier, berger de son état. Mais me direz-vous, ce dernier n'existe pas. Peut-être, mais c'est un peu de Jean Giono qui existe avec lui. Jean Giono écrivait au conservateur des eaux et forêts de Digne au sujet de sa nouvelle « L'homme qui plantait des arbres ». « J'ai donné mes droits gratuitement pour toutes les reproductions. Il ne me rapporte pas un centime et c'est pourquoi il accomplit ce pourquoi il a été écrit. Je crois qu'il est temps qu'on fasse une politique de l'arbre, bien que le mot politique semble bien mal adapté. » Comme Élisée Reclus aurait approuvé cela. Lui pour qui nature, géographie, politique et liberté s'entrelacent si intimement. Lui qui disait « Ce n'est pas tout, je puis le dire avec le sentiment du devoir accompli. Pour garder la netteté de ma vue et la probité de ma pensée, j'ai parcouru le monde d'un homme libre, j'ai contemplé la nature d'un regard à la fois candide et fier, me souvenant que l'antique Freya était en même temps la déesse de la terre et celle de la liberté. » Il y a encore cette phrase d'Élisée Reclus qu'Elzéar Bouffier mit directement en action. « Je fais revivre la nature autour de moi. » Rappelons-nous ce que Jean Giono, narrateur, dit de son personnage. Le berger alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner, un après l'autre, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Un tel soin maternel révèle un amour inconditionnel de la nature et des arbres, tout comme Élisée Reclus qui, dans ses descriptions forestières, attribuait toujours un mot doux et personnalisé aux arbres. Ainsi, il souligne la grâce délicate du bouleau, la forte patience du chêne, la tristesse du sombre sapin. Élisée Reclus est l'un des premiers à nommer et à définir l'un des grands défis de notre époque, à savoir les enjeux environnementaux. Ils considèrent que l'homme et son milieu s'influencent mutuellement et ne peuvent être étudiés l'un sans l'autre. Ils posent ainsi les bases d'une géographie sociale et écologique en dénonçant les impacts négatifs et les dommages collatéraux de l'industrie sur l'environnement et la population à proximité. Il n'est pas contre le progrès, mais si ce dernier s'accompagne de bouleversements agressifs de la nature, bouleversements qu'il nomme « règles », il convient alors d'encadrer, de légiférer cette action de l'homme sur la nature en la faisant répondre à des critères sociaux, moraux et esthétiques afin de combattre et endiguer ces règles. Ah, que n'a-t-il déjà été écouté lorsqu'il écrivait « La question de savoir ce qui dans l'œuvre de l'homme sert à embellir ou bien contribue à dégrader la nature extérieure peut sembler futile à des esprits soi-disant positifs. Elle n'en a pas moins une importance de premier ordre. Les développements de l'humanité se lient de la manière la plus intime avec la nature environnante. Une harmonie secrète s'établit entre la terre et les peuples qu'elle nourrit, et quand les sociétés imprudentes se permettent de porter la main sur ce qui fait la beauté de leur domaine, elles finissent toujours par s'en repentir. Là où le sol s'est enlaidi, là où toute poésie a disparu du paysage, les imaginations s'éteignent, les esprits s'appauvrissent, la route et la servilité s'emparent des âmes et les disposent à la torpeur et à la mort. Mais Jean Giono, dont le père était un anarchiste convaincu, avait-il lu Élisée Reclus ? Tout le porte à croire, quand il décrit, avant qu'Elzéar Bouffier ne lui redonne vie, cette terre désolée et mortifère. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège. Et tout le porte à croire aussi quand il décrit cette même terre devenue nourricière et généreuse grâce à sa résurrection par Elzéar Bouffier. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortable. Notons au passage qu'Elzéar Bouffier met tout simplement en acte, en pratique et en réussite, l'appel d'Élisée Reclus à prendre définitivement conscience de notre humanité solidaire, faisant corps avec la planète elle-même, embrasser du regard nos origines, notre présent, notre brut rapproché, notre idéal lointain, c'est en cela que consiste le progrès. Dans les méandres de ma mémoire, les brumes se sont dissipées et je pose désormais Élisée Reclus à côté de mon Élisée valet de ferme que je revois derrière son cheval à creuser dans la terre son engagement pour elle. Nul doute que mon Élisée aurait aimé et approuvé l'autre Élisée. Et Elzéar, mais je m'égare, ce dernier n'existe pas. Enfin si, en un peu de chacun dont l'action est pendant de longues années dépouillée de tout égoïsme et d'une générosité sans exemple. Voilà aussi que je me prends aussi à ressentir, à rêver un peu de l'utopisme et de l'humanisme d'Élisée Reclus, devenant mon autre Élisée. Sans doute est-ce à cause de ses convictions, très anarchistes et un peu communistes, qu'il est plus ou moins tombé aujourd'hui dans l'oubli. Mais qui d'autre, si ce n'est un géographe libre-penseur de génie, pouvait écrire « Vu de haut, dans ses rapports avec l'homme, la géographie n'est autre chose que l'histoire dans l'espace, de même que l'histoire et la géographie dans le temps. » À elle seule, cette phrase définit et résume la géohistoire et les principes de base de la géopolitique. En revoyant mon ami, vous savez, celui qui m'avait dit « Tu devrais faire une petite recherche sur Élisée Reclus », je lui dis, après l'avoir remercié pour cette lumineuse découverte, hein, « Je suis enthousiasmé par ce poète de la géographie, par la vision romantique de ses écrits, par son univers si moderne. Je suis ému par cette personnalité ressentant si puissamment l'émotion et la mouvance du monde. » Ma petite conférence sur lui, j'aurais aimé l'appeler « L'émouvance du monde ». Mais ça a déjà été fait par un historien libre-penseur qui a su comprendre le personnage. Reclus est peut-être une voix qui nous manque aujourd'hui, tant au plan du débat d'idées que du respect que l'on doit les uns pour les autres et pour son environnement. Puis j'ajoutais à mon fort intérieur, c'est drôle, Élisée Reclus, sans l'avoir jamais connu, il me manque.
Utsita, Utsita, Utsita. Attitude, attitude, attitude. Utsitanitude.
Une émission de Jean Tufou, mise en onde par Lucas Dulac.